À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. La journée internationale des migrants, c'est le 18 décembre, c'est-à-dire ce mardi. Loin d'être résolue, la question de leur prise en charge reste toujours d'actualité. Les différents responsables, les Européens les premiers, n'arrivent pas à s'entendre sur le sujet. Le pacte de Marrakech pour renforcer la coopération internationale vient d'être adopté. Ce texte n'impose rien aux États, mais donne des recommandations pour accompagner ces hommes et ces femmes. À Bourg-en-Bresse, le bidonville rue des Prés de Brou, installé dans des locaux abandonnés d'Emmaüs, va être détruit. L'État a relogé les 20 familles installées dans ces cabanes de fortune. Quel bilan et la suite? Deux invités en direct dans nos studios et quelques infos en bref à la fin de ce magazine.
Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Vous y aurez votre part.
Un extrait du discours d'Emmanuel Macron, une phrase glissée par le président de la République lundi dernier, le 10, pendant l'annonce de ses mesures sociales en réponse aux mobilisations des Gilets jaunes. Bernadette Perrault, bonjour.
Bonsoir. Oui.
Vous êtes la présidente d'Emmaüs Bourg-Servaz, vous êtes aussi membre de l'association 100 pour un toit 01, une émanation d'Emmaüs, on en reparlera. En quelques mots, comment interprétez-vous ces paroles du président de la République au sujet de l'immigration ?
Certes, c'est une réalité que personne ne peut ne pas voir, qu'il y a une question qui se pose à nous tous, les morts en Méditerranée, les personnes laissées sur notre territoire sans papier pendant des années, qui sont vouées à travailler au noir ou à être contraints à rentrer dans des économies parallèles, privées des droits, privées du droit au logement, privées du droit au travail. Il y a un problème, oui.
Est-ce que vous attendiez à ce que le chef de l'État en parle dans ce contexte-là ?
Alors, effectivement, depuis longtemps, on sait que les partis politiques ou les gouvernements successifs ont instrumentalisé la question de l'immigration, ont posé la question, mais souvent en l'instrumentalisant et en posant pas très bien la question, à notre sens, en oubliant surtout qu'il y a des textes internationaux, qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour tirer les États vers le haut, après le drame que l'Europe a connu, il y a eu un texte, la Convention, la Déclaration des droits de l'homme, et on a l'impression que les États actuellement s'en éloignent, oublient, mettent ça sous le tapis, et ça devient un texte gênant. Le collectif Solidarité Migrants, Emmaüs, un certain nombre d'associations veuillent réveiller ce texte-là. Et face à des violences ou à des drames, il faut absolument que ce texte redevienne la feuille de route de nous tous et des États.
Dans un communiqué, SOS Racisme a posé la question, les immigrés comme bouc émissaire, est-ce que cette question se pose aussi dans la déclaration du chef de l'État, Bernadette Perrault.
Alors, il ne le dit pas explicitement. Il dit que c'est une question. Après, il faudra voir de quelle manière il tente de résoudre ce qu'il appelle être le problème des migrants. Dans les derniers textes qui ont été adaptés par le gouvernement, la réforme du code du CESEDA pour lequel Colomb a œuvré, ne semble pas donner une direction favorable aux personnes dites migrantes. On peut être inquiet.
Concrètement, l'immigration devait être l'un des thèmes principaux du grand débat national. Donc, ce sont ces consultations qui sont prévues au niveau local partout en France. Depuis, face à certaines critiques, même internes, marche arrière du gouvernement. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé jeudi à l'Assemblée nationale. L'immigration rejoint la thématique démocratie et citoyenneté. Les trois autres sont la transition écologique, la fiscalité et les services publics. Pendant ce temps, au niveau local, on s'interroge toujours comment mettre ces personnes en sécurité, que ces hommes, ces femmes, ces familles ne passent pas un nouvel hiver dans des conditions plus précaires. Depuis octobre 2015, une centaine de personnes étaient réfugiées dans des hangars rue des Prés de Broux à Bourg, des locaux abandonnés d'Emmaüs, qui n'a jamais porté plainte pour éviter leur expulsion. Une association, les Cabanes Solidaires, a même vu le jour cette année pour gérer le bidonville. Vous êtes son coprésident, Jean Leclerc. Bonjour.
Bonjour.
Jean Leclerc, courant novembre, 20 familles ont quitté le bidonville. Expliquez-nous.
Après des négociations qui ont été toujours tenues avec les représentants de l'État, donc en l'occurrence direction départementale de la cohésion sociale, nous avons réussi à avoir une proposition. C'est donc la DDCS qui nous l'a fait. Elle ne vient pas ni d'Emmaüs, ni du collectif, et encore moins des Cabanes. La proposition, c'était de dire donc que les 20 familles qui logeaient là sur le site seraient hébergées d'une façon digne dans des locaux qui appartiennent donc à la DDCS et qui ont été remis en état pour pouvoir les accueillir. Enfin, c'est des locaux qui ont été mis à disposition de la DDCS, donc que l'État loue pour pouvoir héberger ces gens-là. Le point noir de cette négociation, c'est qu'en contrepartie, la DDCS nous a demandé très clairement et sans embâge de mettre à la porte tous les célibataires qui étaient encore au Caman. Nous avions donc alors 64 personnes qui représentaient les 20 familles, plus une vingtaine de célibataires, qui eux n'avaient vocation à être acceptés par personne, ni par le territoire national, ni par la préfecture de l'Ain, et que nous, on nous demandait de mettre à la porte. Il va de soi. Il va de soi qu'une telle demande qui est faite à Emmaüs, dont on connaît quand même les motivations, dont on connaît les objectifs, est une demande qui est complètement irrecevable en l'état. Emmaüs n'a pas pour mission de mettre à la porte des gens qu'elle accueille à d'autres moments. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons continué les négociations et nous avons réussi à parvenir à ce qu'une quinzaine de célibataires soient encore sur les lieux. Leurs positions sont en étude, donc la DDCS à la liste. Ces gens ne sont pas tous déboutés, donc il y a peut-être d'autres solutions pour eux et on espère que les 20 personnes restantes seront elles aussi logées.
Donc des personnes qui sont toujours au bidonville rue des Prés de Broux et les familles, où elles sont donc aujourd'hui lundi 17 décembre.
Alors, aujourd'hui, lundi 17 décembre, ben, les familles sont à Dortan, effectivement. Donc, il y a 64 personnes qui sont logées. Je dirais presque que c'est une grande barre où on a remis la population des cabanes du Pensuy. Mais les gens se sentent bien parce que, bon, ben, ils ont la chaleur, ils ont l'électricité. C'est quand même mieux que la façon dont ils vivaient là aux cabanes. Nous, on y met quand même un petit bémol. C'est-à-dire qu'au début des négociations, on nous avait dit que ces gens-là auront un appartement pérenne. Après, on nous a expliqué que c'était une ligne budgétaire du budget de l'État qui était une ligne fluctuante, reconduite ou pas reconduite, et qui était donc une mission sociale vis-à-vis des déboutés. Donc, on nous a dit que c'était une solution d'hébergement durable. Et plus récemment, on nous a dit ben, de toute façon, ils seront au moins abrités pour l'hiver. Donc on attend avec quand même beaucoup d'inquiétude pour ces gens qu'on a déjà beaucoup promenés à travers le département, dont on s'est beaucoup moqué, à qui on a fait beaucoup de promesses et qui sont toujours sur le qui-vive, déstabilisés parce qu'on leur propose un jour une chose, le lendemain autre chose.
Et donc à terme, c'est la fin de ce bidonville rue des Prés de Broux.
C'est la fin de ce bidonville et tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour eux d'abord, parce que les gens qui sont, enfin pour eux, pour les familles, qui sont hébergés là-bas à Dortan, bon, ils ont d'autres conditions avec les enfants. Il y avait quand même 26 mineurs qui faisaient partie du groupe des 64 personnes des familles. C'est quand même beaucoup. Pour tous ces gens-là, donc, c'est très bien. Pour nous aussi. Pour nous aussi, parce que bon, on est quand même que quelques-uns à tenir ce bidonville et au bout de 3 ans, plus de 3 ans qu'on accompagne ces gens, c'est très très dur. Tant mieux pour tout le monde, parce qu'il y a aussi peut-être une lumière d'espoir. Va-t-on leur trouver quelque chose qui soit plus durable, plus pérenne? On émet des doutes, on est inquiet, mais néanmoins, pourquoi pas? Essayons d'y croire un petit peu. Et puis, tant mieux, parce que, quelque part, il y en a marre aussi de ce regard qu'on a vis-à-vis de cette population.
C'est-à-dire?
Eh bien, on dit toujours le problème de l'immigration. Même le président, tout à l'heure, on l'a entendu, le problème de l'immigration est un problème national. C'est pas national, d'ailleurs, il est plus large que ça. Mais c'est un problème. Pourquoi un jour, on ne pourrait pas dire la chance de l'immigration? Dire ces gens-là, ils ont une culture. Ces gens-là, ils ont une richesse. Ils sont une richesse. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et si un jour, le regard qu'on a vers eux, un regard où c'est une population de gêneurs, une population qui sont dans un bidonville, c'est méprisant, on les méprise ces gens-là. Si un jour on les regardait avec amour en disant « mais chouette, ils ont plein de richesses, on va les faire venir, et ces richesses-là, on va les accepter », ce serait peut-être une autre démarche.
D'ici donc cette décision de l'État de prendre en charge ces personnes, vous êtes mobilisés, il y a eu donc la création de cette association 100 pour un toit 01. Bernadette Perrault, en quelques mots, de quoi s'agit-il ?
Alors, face à ce problème du non-accès au logement, il y a les personnes, effectivement, sont contentes de sortir du bidonville, mais c'est ce qu'elles ne voulaient, plusieurs l'ont exprimé, c'est pas la charité qu'on attend, c'est pouvoir vivre de son travail. Pour vivre de son travail, il faudrait avoir l'autorisation de travailler. Et quand on a l'autorisation de travailler, ben effectivement, on accède au logement. Sans cette autorisation, on n'accède pas au logement. Et on est contraint à vivre de la charité, ou comme je disais tout à l'heure, au travail, au noir et au marchand de sommeil. Donc effectivement, par rapport à cette question de marchand de sommeil, 100 pour un toit, c'est constitué. C'est-à-dire, 100 personnes s'engagent à cotiser 6 euros par mois pour pouvoir qu'une famille puisse être mise à l'abri, pour échapper justement à la rue ou au marchand de sommeil.
Ça représente combien de personnes aujourd'hui?
Actuellement, sur 2 ans, c'est vrai que les Burgiens et même les habitants du département de l'Ain ont répondu présent. Plus de 400 adhérents en l'espace de 2 ans. En partant de zéro, c'est pas rien. Je sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui peuvent se vanter d'avoir eu 400 adhésions en 2 ans et avec des donateurs plutôt généreux, puisque c'est 11 familles qui ont pu être mises à l'abri sur ces 2 années. Donc bravo aux habitants de Bourg et du département de l'Ain.
C'est la fin du bidonville, mais ce n'est pas la fin de votre mobilisation. Demain, un rendez-vous, donc, c'est le 18 décembre, la journée internationale des migrants. Jean Leclerc, qu'est-ce qui est prévu?
Alors, comme dans toute la France, c'est un peu une recommandation qu'on a reçue vis-à-vis de l'ensemble du pays. Il y aura un rassemblement à 18h. On nous avait dit que ce serait bien que ça puisse être à 18h devant les mairies. Bon, nous, on n'avait absolument rien, aucune opposition. Et donc, effectivement, on a reconduit cette manifestation à 18h demain, place de la mairie. Après quoi, nous partirons faire un petit tour dans les rues de Bourg. Et le cas échéant, nous remonterons, si nous sommes assez nombreux, jusqu'à la préfecture pour manifester. Donc, le maximum de gens est invité pour témoigner un peu de la solidarité vis-à-vis de cet accueil des migrants. Ils sont prévus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on parlait tout à l'heure, avec l'article 13, où chaque homme sur la planète a le droit de se déplacer où il veut, de quitter son pays et d'y revenir s'il en a envie. Je crois que la promulgation et surtout faire un maximum de bruit et de propagande autour de cet article 13 est très important pour montrer que l'homme est libre d'aller là où il veut.
Merci à tous les deux. Bernadette Perrault, vous êtes la présidente d'Emmaüs Bourg-en-Bresse-Servas, et Jean Leclerc, co-président de l'association Les Cabanes Solidaires.
Radio B.
Au sujet du grand débat national, le gouvernement travaille encore à son organisation. À Bourg-en-Bresse, la ville ouvre un cahier d'expression dès ce mercredi le 19 décembre et jusqu'à début mars. Pour y participer, vous aurez le choix. Des papiers seront à votre disposition dans le hall de la mairie. Ou si vous préférez, il y aura aussi le site internet de la ville, bourg-en-bresse.fr. Ces consultations seront adressées au préfet de l'Ain et une synthèse transmise au gouvernement.
Radio B. Radio B.
À Paris, on décide de fermer les frontières et de les instaurer depuis 2015 pour faire de la lutte antiterroriste. Et en fait, clairement, ils font de la lutte contre la migration. Donc on se retrouvait avec des gamins, des gamines, des familles, des femmes seules. Bloqués sur cette frontière, on s'est retrouvé avec des morts à côté de Monaco, de Cannes, de cette Côte d'Azur. Et vous savez, un montagnard, c'est un peu comme un marin quoi, en mer. C'est qu'il y a un moment où on a une obligation de sauvetage, une obligation de tendre la main. Ça dépasse la question de pro-migrants ou anti-migrants.
Restez à l'écoute de Radio B, la suite de l'interview de Cédric Héroux, agriculteur mobilisé pour l'aide aux migrants. C'est dans quelques minutes.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat poussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus.
C'est que sur Radio B avec Nous Sommes, un extrait de son 11e album Les Rescapés. Mieux Sec sera en concert à la Cave Musique à Mâcon le 7 mars.
À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM.
Des nouvelles de Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya. Il a aidé des centaines de migrants à traverser la frontière franco-italienne. Il était à Bourg-en-Bresse fin septembre pour présenter Libre, un documentaire sur son combat pour les migrants. La Cour de cassation a annulé sa condamnation et celle de l'enseignant-chercheur Pierre-Alain Manoni pour avoir aidé des migrants à la frontière franco-italienne. Les deux hommes avaient été condamnés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2017. Cédric Héroux a 4 mois de prison avec sursis et Pierre-Alain Manoni à 2 mois avec sursis pour avoir facilité la circulation et le séjour de migrants. Pour prendre cette nouvelle décision, la Cour a suivi le Conseil constitutionnel. Ce dernier, au mois de juillet, avait censuré le délit de solidarité au nom du principe de fraternité. Il avait été saisi par Cédric Hiroux et Pierre-Alain Manoni. Les deux hommes seront de nouveau jugés devant la Cour d'appel de Lyon. Je vous propose de réécouter son interview. Cédric Hiroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur dans la vallée de la Roya. Vous avez aidé des centaines de migrants à traverser la frontière franco-italienne. Pour ça, vous avez été plusieurs fois en garde à vue et devant la justice. En ce moment, vous faites le tour de la France pour présenter Libre, un documentaire pour raconter votre combat. Cédric Hiroux, c'est quoi pour vous être libre ?
C'est tenter d'y rester aussi, de rester libre un maximum. Bah, c'est libre de dire ce qu'on pense, libre d'agir comme on le pense. Et bien sûr, avec le respect d'autrui, hein, bien sûr. Et souvent, on m'a menacé en fait, de m'enfermer, donc de me priver de liberté. Et pour moi, la liberté ne s'arrête pas à des barreaux de prison, ne s'arrête pas. Voilà, c'est juste la liberté d'avoir un avis et de. Voilà, c'est agir dans la démocratie, quoi, être libre, je pense.
La liberté, pour vous, c'est aussi là où vous vivez. Vous l'avez dit, vous avez acheté un terrain pour vous créer une cabane. Vous êtes producteur d'olives, vous avez des poules. Comment un jour on se dit, je vais aider des migrants ?
Ah, moi, je ne le dis pas. En fait, c'est la France, à Paris, on décide de fermer les frontières et de les instaurer depuis 2015 pour faire de la lutte antiterroriste. Et en fait, clairement, ils font de la lutte contre la migration. Donc on se retrouvait avec des gamins, des gamines, des familles, des femmes seules, bloquées sur cette frontière. On s'est retrouvé avec des morts à côté de Monaco, de Cannes, de cette Côte d'Azur. Et vous savez, un montagnard, c'est un peu comme un marin quoi, en mer. C'est qu'il y a un moment où on a une obligation de sauvetage, une obligation de tendre la main. Ça dépasse la question de pro-migrants ou anti-migrants. Cédric Hiroux, à la base, c'est pas un militant quoi, du tout. Cédric
Hiroux, parce que c'est vous juste êtes agriculteur et vous avez constaté ce qui se passait sur place. Et c'est là que ça a déclenché quelque chose chez vous. Parce que quand vous vous êtes installé dans la vallée de la Roya, vous n'avez pas pensé que vous alliez ensuite vous occuper de ces personnes.
Non, mais moi j'ai pas aidé des migrants, quoi. J'ai juste aidé des gens qui avaient en bas de chez moi. Il faut comprendre que la Roya, c'est une vallée alpine, c'est une route qui est très sinueuse, avec un relief très abrupt. Et donc de voir des gamins marcher seuls sur cette route, voir à 2h du matin, etc., on est obligé de considérer en fait le danger de ces personnes-là, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué en fait de se défendre devant des représentants de la justice. La justice parle de personnes en situation irrégulière et nous on parle de gens. C'est très compliqué, quoi. Et la justice ou le gouvernement parle de quotas, de flux, de pourcentages, comme si c'était des cartons, et nous, on a des gens. Et la grosse problématique, c'est ça, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose.
Vous ne pensez pas aux migrants, vous pensez aux personnes. C'est ce que vous racontiez un peu par rapport à votre enfance, que vous ne faisiez pas la différence dans le quartier où vous avez grandi, entre les Noirs d'un côté et les Blancs d'un côté. Ça a toujours été quelque chose qui était en vous, au final.
Ouais, je suis dans un quartier qui s'appelle l'Ariane, à Nice. Donc c'est un quartier très populaire. Donc c'est vrai que j'étais à l'école avec des Noirs, des Arabes. Et surtout aussi, sur cette notion en fait, de protection de l'enfant, c'est que ma mère a été assistante maternelle. Donc on a eu beaucoup d'enfants qui sont passés à la maison. Donc j'ai appris à partager ma chambre, mes jouets, mes parents aussi. Et cette obligation en fait, d'assistance en tant qu'adulte envers les enfants. Et donc voilà, c'est mon éducation en fait, c'est ma mère qui m'a éduqué comme ça, c'est ma culture, c'est mon histoire, et de ne pas le faire, ce serait une censure. Tout à l'heure, vous me parliez, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Ben, c'est d'assumer ça, c'est d'assumer son éducation, sa culture et son histoire en fait. Et donc l'histoire, mon histoire, ma culture, mon éducation, ben, c'est de porter assistance à des personnes qui sont potentiellement en danger.
Dans la vallée de la Roya, vous n'êtes pas le seul à aider ces hommes, ces femmes, ces familles qui viennent d'Italie. Vous êtes plusieurs personnes dans la vallée de la Roya à aider ces personnes.
En 2016, on était très nombreux. Ça s'est bien calmé avec cette pression policière, avec les gardes à vue, avec les perquisitions, tout ça.
Avant que vous décidiez de médiatiser en fait, vos actions.
Oui. Et pendant, au début, pendant, ouais, il y avait quand même pas mal de monde qui aidait. Parce qu'il faut comprendre, en fait, c'est avant tout, c'est que la frontière a été fermée, mais ça n'a pas été la ligne frontière qui a été fermée, ça a été une bande sur 20 km. Donc ça veut dire qu'entre Bray-sur-Roya et Nice, du côté français, on s'est retrouvé avec des barrages de police qui nous empêchaient d'aller jusqu'à Nice. Donc en fait, il était facile de faire 26 000 en Italie jusqu'à Bray-sur-Roya, il n'y avait aucun barrage de police, mais les barrages de police étaient entre Bray-sur-Roya et Nice. En fait, la frontière était mise à l'intérieur du territoire. Donc les personnes qui sont en France, les personnes en migration qui sont en France, n'ont pas accédé à leurs droits de la demande d'asile et pour les mineurs isolés, la prise en charge éducative par l'ASE, l'aide sociale en enfance. Et en fait, l'État considérait la Vella Roya comme en étant en Italie, et même le département des Alpes-Maritimes servait de zone frontière où toutes les personnes arrêtées étaient dégagées en Italie, que ce soit majeures ou mineures. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est ça, c'est une association pour que ces personnes puissent se régulariser le plus tôt possible et pour qu'elles puissent accéder à leurs droits. Donc on a dû prouver ça, faire condamner le préfet à maintes reprises. Et donc voilà, c'est une grosse guerre médiatique, de communication, d'information et juridique, quoi.
Comment vous avez vécu ce tourbillon justement de cette médiatisation et de vous retrouver devant la justice ?
Ouais, devant la justice, ça va, c'est un peu luxe, hein, c'est en garde à vue que c'est plus compliqué. Donc bon, on s'habitue à tout, j'en crois. Hein. Et puis qu'on a des gamins qui ont vécu la guerre, la dictature, la torture en Libye, bon, ça reste un peu... bon, pas grand chose. Et après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'ai vu comment marchait la justice de l'intérieur, j'ai vu comment marchait la police de l'intérieur, j'ai vu comment un préfet pouvait entraver la loi et avoir des directives illégales. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Hein. Ce qui me fait très peur, en fait, c'est le manque d'indépendance de la justice.
Vous ne croyez plus en la justice ?
Non, je crois en la justice, je la défends, la justice. Je ne crois plus aux représentants de la justice, c'est pas pareil. La justice vaut bien mieux que les représentants, malheureusement.
Mais de ce que vous avez vécu, vous voyez que vous n'avez pas rendu justice.
Non, après c'est pas moi, moi je cherche pas justice. Moi c'est pour les personnes en migration que je cherche justice. Hein, je veux dire. Et c'est sûr que qu'on voit ces représentants de la justice, donc les juges, les procureurs, etc., complètement inertes à la détresse de gens. C'est inquiétant, quoi. Il y a un déni de réalité d'une part, et il y a une froideur. C'est des sociopathes ces gens, quoi. C'est des gens qui sont absolument pas qui n'ont aucune empathie, quoi. Et c'est pas une question de pro ou anti-migrants, c'est qu'à un moment il y a des personnes sur notre territoire et on n'a pas le droit de les laisser, de les mettre en danger d'une part et de les laisser comme ça sans accès au droit et respecter le droit, surtout que l'État respecte le droit. Ce qui est troublant, c'est ça, c'est qu'en fait il y a des directives étatiques donc, que le préfet coordonne et qui sont illégales en fait. C'est qu'on se sert de la police pour faire des actions illégales. C'est quand même grave en France qu'un préfet puisse faire ça. Un préfet qui se fait condamner par mon avocat tous les mois pour entraver la demande d'asile, pour avoir refoutu des gamins en Italie illégalement. Et c'est une personne qui est toujours en place, qui a toujours son métier, qui est payée pour ça, qui se sert de la police pour faire ça. En ce moment, autour de mon domicile, il y a 50 gendarmes mobiles qui me surveillent. On a trouvé des caméras autour de mon domicile pour filmer les gens, donc illégalement. Donc il y a plein de procédures qui sont illégales, qui sont faites par l'État. Nous, la question de la migration dans la Vella Roya, on ne défend pas que des migrants. En fait, on se bat pour lutter pour nos droits à nous, Français.
Et puis, ça vous droit à vous aussi, vu bien que sûr. Vous êtes témoin que, par exemple, qu'il y a ces caméras qui sont à proximité de votre domicile.
Bien sûr, et puis on est dans une vallée qui était complètement militarisée. Imaginez-vous, la Roya fait 4000 habitants, il y a 500 gendarmes, police, militaires, enfin c'est quand même fou, quoi. Il y a quand même un flic pour 10 personnes, quoi. Donc il y a un moment, se faire contrôler 4 fois par jour, ça commence à être dérangeant. De voir des gens armés dans les montagnes courir après des Noirs, ça commence à être dérangeant. Et d'être noir surtout et français dans la Vella Roya, c'est devenu impossible. C'est que ces personnes se font contrôler tout le temps. Donc en fait, la couleur de peau devient une cible. En fait, on devient une cible parce qu'on a une couleur de peau. En fait, c'est ça le problème de la frontière, c'est un endroit où le racisme est devenu légal, en fait, où on se sert de la couleur de peau pour identifier des personnes en migration.
Est-ce que tout ce que vous avez vécu, ça a changé quelque chose pour ces hommes, ces femmes, ces enfants ?
Ah ouais, on arrive à bien gagner quelques batailles, on a gagné quelques batailles, hein, dont l'accès à la demande d'asile dans la Vella Roya, qui avant était impossible, la prise en charge des mineurs isolés, bon, c'est sûr, il faut toujours se battre, quoi. Et je pense que l'opinion publique, quoi, avec ma surmédiatisation, la surmédiatisation de la Vella Roya, on a réussi à sensibiliser des gens qui n'étaient pas sensibles à cette cause. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui sont dérangés par cette situation-là et qui n'ont pas d'avis. C'est vrai que ça. Et ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas avoir un avis tranché. C'est qu'on n'est pas forcément d'accord entre même des pros et anti-migrants. Qui est pour la migration ? C'est une question stupide. Personne n'est pour la migration. Moi, je ne suis pas pour que des gamins traversent le désert, passent en Libye, traversent la Méditerranée et arrivent ici, quoi. Moi, il y a un problème. Et ce problème, il n'est pas que français, il est mondial. Mais après, il faudrait pouvoir donner des vraies informations. Et qu'on entend des gens comme Ciotti, comme Colomb, comme Macron utiliser la migration pour faire peur aux gens, pour fédérer autour de la peur. Et la migration, on a l'impression qu'elle sert à ça. C'est que quand le mensonge, quand Colomb est en train de dire oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas toute la misère du monde qu'on a. Il faut savoir que 97% de la migration africaine, c'est les Africains qui la gèrent. Donc il y a des pays en voie de développement, c'est les pays en voie de développement dans le monde qui gèrent la migration, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Donc il y a un moment, quand on voit un bateau avec 150 personnes, je pense au Diciotti, le bateau italien, ou l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, qu'on les bloque en disant oui, l'Europe, on peut pas trop, qu'il y ait une réunion entre les différents États européens pour 150 personnes. Je sais, mais s'ils veulent, je prends la maison, les 150 personnes.
Mais ça, vous voyez que même quand on voit les images, même si on en parle, il y a encore des personnes, beaucoup de personnes qui parlent de ces hommes, de ces femmes, en disant c'est un danger, on se fait envahir. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui partagent cette parole et il y en a qui partagent.
C'est vrai qu'on les voit beaucoup plus démocratisés sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. C'est que les gens se permettent sur les réseaux sociaux d'avoir des déclarations racistes et xénophobes et quand même graves. Et beaucoup moins dans l'espace public, en fait. Et les gens oublient, en fait, que le racisme est interdit en France. On a le droit d'être raciste, mais on n'a pas le droit d'avoir des propos racistes. Ça reste interdit. Et qu'on parle de d'envahissement, bah, c'est quand même une personne sur mille. Donc, c'est pas non plus un envahissement. Je veux dire, il y a 10 fois moins de personnes qui arrivent en Europe cette année comparée à 2015, par exemple.
Mais il y a des personnes qui pensent que c'est un envahissement, qui viennent voir le documentaire libre.
Ben sûrement, mais ils n'osent pas se poser de questions par la suite. Mais je les invite justement à débattre. Moi, ce que j'aimerais, c'est de demander à ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles sont vos solutions. Est-ce que la solution, c'est d'entraver ces bateaux de secours et de noyer ces personnes, laisser mourir ces personnes en mer? Est-ce que c'est... Comment on fait? Ces personnes sont là. Je ne pense pas que les personnes qui sont contre la migration soient contre les migrants, ils sont contre des conséquences négatives de la gestion de la migration. Donc ils sont contre la délinquance, ils sont contre l'incivisme, ils sont contre tout ça. Et je ne pense pas que la violence ou l'incivisme est une nationalité. En fait, c'est des statuts sociaux qui posent problème. Donc stigmatiser une race, stigmatiser une religion et ghettoiser des races et une religion crée forcément des problèmes. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre, quoi. Et ensemble, donc, il y a une problématique qui est mondiale, qui est réelle. Donc il faudrait se retrouver autour d'une table, discuter et trouver des solutions et pour que ça se passe bien. Je crois que le but pour tout le monde, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, on se dise, tiens, la migration, ben, en fait, c'était un défi qui était important, mais on l'a relevé, on a réussi à ce que on ait des résultats positifs.
Le 6 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de solidarité au nom du principe de fraternité. C'est vous, Cédric Hérault, qui l'aviez saisi avec Pierre-Alain Mannoni, lui aussi investi dans l'aide aux migrants. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre ?
Ben, il n'y aura plus de possibilité de poursuivre des personnes qui aident des personnes en situation irrégulière quand on les aide sur le territoire français. On peut héberger, on peut transporter. Par contre, le bémol, c'est qu'il reste interdit de faire du passage de frontière. Donc on n'a pas le droit de prendre une personne en situation irrégulière et de l'emmener, de lui faire traverser la frontière, étant donné qu'a priori, je dis bien a priori, c'est interdit. Donc on ne peut pas, nous, avoir le droit de faire passer une personne alors que pour elle, c'est interdit de le faire toute seule. Moi, je n'ai pas envie de me battre pour que moi, j'ai le droit d'aller faire passer des gens. J'ai envie de me battre pour que ces personnes puissent passer librement, parce que je rappelle que l'espace Schengen, bah, c'est l'Europe, et la libre circulation, bah, c'est un droit dans l'espace Schengen. Je rappelle que la fermeture de frontières n'a pas été fermée pour la lutte contre l'immigration, mais contre la lutte contre le terrorisme. Ils n'ont arrêté aucun terroriste sur leur point de frontalier, hein, depuis 2015. Et donc du coup, voilà, moi je serai toujours poursuivi parce que j'ai fait du passage de frontières, mais passer au tribunal, ça ne veut pas dire être condamné, ça veut dire se justifier. Donc moi, si demain je dois prendre un gamin parce qu'il en est dans le besoin, il est en danger et je le ramène chez moi, je suis tout à fait d'accord pour aller me justifier devant un tribunal. Il ne faut pas avoir peur de la justice, il faut se dire que la justice c'est un outil pour comprendre et des situations. Et si on a des personnes et non des robots qui sont là à représenter des lois et interpréter des actions qui soient légales ou pas, c'est pour humaniser tout ça.
Cédric Hérault, merci.
Ben merci à vous.
Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya, il a aidé des centaines de migrants à traverser la frontière franco-italienne. Il était à Bourg-en-Bresse fin septembre pour présenter Libre, un documentaire sur son combat pour les migrants. La Cour de cassation a annulé sa condamnation et celle de l'enseignant-chercheur Pierre-Alain Manoni pour avoir aidé des migrants à la frontière franco-italienne. Ils seront de nouveau jugés devant la Cour d'appel de Lyon.
Radio B, Radio B.
Quelques infos en bref. Des cadeaux pour tous à Noël. La Ligue nationale de rugby, l'ensemble des clubs de Top 14 et de Pro D2 s'associent à l'opération des Pères Noël verts du Secours populaire. Plusieurs collectes sont organisées pendant des matchs. À Bourg, les spectateurs pourront apporter un jouet neuf et collectif, comme des jeux de société, des jeux de cartes. Un stand sera installé dimanche 23 décembre au Stade Verchères pour le match Bourg-Oyonnax. La collecte a déjà commencé dans les clubs. Salariés administratifs, joueurs ou staff sont mobilisés. Eux sont déjà submergés de dons et c'est tant mieux à l'approche de la fin de l'année. L'atelier éco-citoyen AIN a ouvert une boutique gratuite, une première dans le département. Déposez des habits, des bijoux, des jouets et ou repartez avec ce que vous voulez. Elle est ouverte tous les samedis de 14h à 18h au 13 rue du Pressoir à Bourg. La rue est perpendiculaire à la rue Charles Robin. L'atelier éco-citoyen, jeune association burgienne, veut créer du lien, lutter contre la pauvreté ou encore le gaspillage. Avis aux cyclistes, de nouveaux endroits pour ranger votre vélo en toute sécurité en centre-ville. C'est une des actions du plan vélo de Bourg-en-Bresse. Au total, 5 consignes seront installées. Elles le sont déjà rue Bernard, Square Joubert et sur le champ de foire. La ville le précise, elles sont principalement destinées aux burgiens qui n'ont pas de rangement chez eux. Ces installations fermées à clé pourront bouger selon les besoins. Pour en bénéficier, il faut s'abonner. C'est 5€ au mois ou 50€ à l'année. Quelques infos en plus ou pour s'abonner au 04 74 45 72 43 ou vélo@bourg-en-bresse.fr. Deuxième info, stationnement à Bourg. Cette fois, ça concerne les automobilistes. Dès le 1er janvier, plus besoin de vous déplacer à l'horodateur. Ça pourra se faire directement avec votre téléphone, avec l'application Presto Park, PRESTOPARK. Il faut donner votre ville, enregistrer votre carte bancaire et votre plaque d'immatriculation. Vous pourrez même prolonger votre temps de stationnement à distance. À noter, si vous préférez payer en espèces, carte bancaire ou sans contact, ça sera toujours possible. Les vélos, les voitures et les bus, des changements à prévoir dès le 1er janvier 2019. Des bus jusqu'à 20h, une navette gratuite pour se déplacer dans le centre-ville de Bourg, la ligne 3 prolongée jusqu'à Saint-Ju ou encore un service de transport à la demande sur l'ensemble de l'agglo. À noter aussi l'arrivée de vélos alloués en libre-service en plus de l'offre de la station. Dernière info importante pour le porte-monnaie, le ticket unitaire reste à 1,30€ pour l'ensemble de l'agglo. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui, dernier numéro de l'année. Merci pour votre écoute. Toute l'équipe de Radio B vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Retrouvez chaque numéro sur notre site radio-b.fr. À très vite sur le 90FM. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15. Rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.